VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, 6 des 11 élèves du lycée de Murambia incarcérés et inculpés d'outrage au chef de l'État pour avoir dégradé des photos du président Pierre Nkurunziza ont bénéficié de la liberté provisoire aujourd'hui. Les lycéens en question, 3 garçons et 3 filles, étaient des mineurs âgés de 14 et 17 ans. Le procureur général burundais Valentin Bagori-Kunda a confirmé dans un communiqué leur remise en liberté. Les 5 autres lycéens détenus ont tous plus de 18 ans. Les autorités burundaises estiment que les parents des 11 élèves inculpés n'ont pas rempli leur mission d'éducateur. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Pour le gouverneur de la province de Murambia, Emmanuel Niondiko, les parents des enfants de cette ancienne province monarchique n'encadrent pas suffisamment leurs enfants.
Après Dieu, c'est le roi. Aujourd'hui, le roi du Burundi, c'est le président. C'est-à-dire le respect du roi, le respect du président doit être une rigueur dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, le Burundi. Alors, après avoir réalisé ça, ça va constater que les parents n'ont pas pu peut-être remplir leur mission noble d'enseigner les enfants les valeurs qui doivent cultiver les jeunes aujourd'hui, parce que ce sont eux qui sont responsables de ce pays.
Pour un des avocats de la défense qui a requis l'anonymat, le gribouillage devient un délit punissable par le code burundais quand il est écrit et ou verbal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Ouganda, tollé de l'opposition après que le président Yoweri Museveni a nommé sa propre femme comme ministre de l'Éducation et des Sports. Les opposants dénoncent un agenda familial du président réélu en février à l'issue d'élections controversées, Eddy Sango.
Janet Museveni, épouse du président Yoweri Museveni, a été nommée par un décret présidentiel dans les cadres du remaniement du gouvernement. L'ancienne députée de 67 ans fera, selon les communiqués de la présidence, partie d'une équipe de 80 ministres et secrétaires d'État. Les documents évoquent plutôt des remaniements mineurs au sein du gouvernement. Pour l'opposition, cette nomination relève d'un agenda familial de la part du président Museveni dans la politique ougandaise. Cette nouvelle nomination était attendu, soutient Ken Lukyamuzi, ancien député de l'opposition ayant siégé avec Janet Museveni au Parlement. L'opposition rappelle que Yoweri Museveni avait promu le 25 mai dernier son fils Muhoozi Ken Rugaba au rang de général des divisions en charge des commandements des forces spéciales. L'opposition avait affirmé que Yoweri Museveni les préparait à prendre sa relève, mais l'intéressé avait démenti toute idée de vouloir succéder à son père à la tête du pays. Monsieur Museveni, 71 ans, dont 30 à la tête de l'Ouganda, a été réélu en février pour un cinquième mandat de 5 ans avec 61% de voix au terme d'un scrutin très controversé et dont l'opposition rejette les résultats.
Au Congo-Brazzaville, la région méridionale du Pôle va recevoir une mission conjointe d'évaluation humanitaire du gouvernement et des agences onusiennes sur place. C'est pour chiffrer les besoins et convenir du soutien accordé aux victimes des opérations militaires contre les éléments du pasteur Tatan Tomi, Eric Manirakiza.
Cette mission d'évaluation va durer 7 jours. Il s'agit du premier déplacement du système onusien dans le Pôle depuis le 4 avril dernier, le début de violents affrontements qui ont entraîné une situation humanitaire préoccupante. L'armée de Sassou Nguesso a utilisé des hélicoptères pour bombarder les centres de commandement du pasteur Ntoumi. Ces opérations ont aussi touché les écoles, selon Amnesty International et l'Église catholique congolaise. Le ministre Antoinette Dinga Diondo, ayant l'action humanitaire dans ses attributions, a dit que 3000 personnes se cachent encore dans les forêts. La mission dépêchée devra déterminer les réticences qui retiennent les déplacés en dehors de leur ménage et mettre des recommandations pour l'aide à déployer dans le pôle en termes des besoins humanitaires avec une estimation chiffrée des besoins sectoriels. En revanche, rien n'est indiqué sur le sort du pasteur Ntoumi sous le coup d'un mandat d'arrêt après avoir perdu son poste de délégué général à la promotion des valeurs de paix.
Au Gabon, on connaît maintenant les dates de la prochaine élection présidentielle. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Les autorités gabonaises ont fixé lundi les dates du dépôt des candidatures et de la campagne électorale. Selon un communiqué de la Commission nationale électorale autonome et permanente, CENAP, lu à la télévision nationale. La présidentielle gabonaise aura lieu le 27 août prochain. La campagne, qui durera 2 semaines, s'ouvre le 13 août pour s'achever le 26 août à minuit, précise le document. En tout, les acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin disposent de moins de 90 jours pour tenir les délais. La période de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle est fixée au 12 juillet. Plusieurs ont déjà annoncé leur candidature ou investi par leur formation politique. Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009 lors d'un scrutin contesté, a été investi par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Il y fera face à ses anciens camarades du gouvernement, dont Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, et Guizou Bandama, qui a démissionné du poste du président de l'Assemblée nationale, fonction qu'il a occupée pendant près de 20 ans. La veille, un autre opposant à M. Bongo, Casimir Oyemba, cadre du parti créé par André Mbaobam, a été investi par cette formation politique, aujourd'hui divisée. Plusieurs autres candidats ont aussi annoncé qu'ils se présentaient en indépendant. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram au Niger, l'attaque massive du groupe djihadiste nigérien vendredi dernier contre la ville de Bosso dans le sud-est a déplacé quelques 50 000 personnes, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La majorité des déplacés ont fui à pied en direction de la ville de Tumour, à 30 km à l'ouest de Bosso, a déclaré Adrian Edwards, un porte-parole du HCR. D'autres déplacés se dirigent vers Difa ou la localité de Kabelawa, où se trouve un camp pouvant abriter 10 000 personnes qui est déjà presque complet, a précisé le porte-parole. Un deuil national est en cours au Niger. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Un deuil national de 3 jours démarre ce mardi. Le gouvernement indique que la ville de Bosso est totalement sous contrôle, contrairement aux informations qui ont fait état du retour des éléments de la secte Boko Haram juste après le passage de la délégation du ministre dans la ville de Bosso. Information pourtant confirmée par plusieurs sources locales, notamment le maire de la localité de Bosso. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Nigeria voisin confronté à un nouveau groupe rebelle en plus de Boko Haram, la Force conjointe de libération du Delta du Niger. C'est dans un communiqué que le conseil révolutionnaire de ce groupe rebelle issu de la région pétrolière du Delta du Niger a déclaré la guerre contre le Nigeria. Crise migratoire maintenant, un chiffre qui retient notre attention ce soir. Depuis 2014, plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Bagassi Koura.
Pour le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Genève, qui donne ce bilan, il s'agit d'un chiffre horrible. En 2014, il y a eu 3 500 morts en Méditerranée. L'an dernier, 3 771, auxquels s'ajoutent 2 814 décès depuis le début de cette année. Depuis 2014, le chiffre des décès en mer Méditerranée ne cesse d'augmenter, a indiqué le porte-parole à l'AFP, pour arriver à plus de 10 000, un seuil dépassé, dit-il, au cours des derniers jours. De son côté, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui ne dépend pas de l'ONU mais qui est basée à Genève, estime que depuis le début de l'année 2016, il y a eu 2 809 morts en Méditerranée, à comparer avec 1 838 morts durant le premier semestre 2015. En date du 5 juin 2016, poursuit l'OIM, 206 400 réfugiés et migrants sont arrivés en Europe par la mer via la Grèce, Chypre et l'Espagne depuis le début de 2016. Aucun décès n'a été signalé en Méditerranée depuis samedi dernier.
Course à la Maison-Blanche aux États-Unis pour terminer. L'ultime super mardi des primaires pour la présidentielle américaine est en cours. Aujourd'hui, dernier grand rendez-vous dans la course à la Maison-Blanche qui doit consacrer la victoire de la candidate démocrate Hillary Clinton, déjà donnée gagnante dans la nuit. Jacques Aristide.
Quelques heures avant l'ouverture du scrutin, plusieurs médias américains avaient annoncé qu'Hillary Clinton a passé la barre du nombre de délégués lui assurant de devenir la première femme à briguer la Maison-Blanche pour le Parti démocrate. C'est dans ce contexte que les électeurs du New Jersey, dans l'est des États-Unis, ont commencé à se rendre aux urnes. 5 autres États doivent se prononcer ce mardi: Californie, Nouveau-Mexique, Montana, Dakota du Sud et du Nord. La candidate démocrate n'a pour autant pas crié victoire, craignant une démobilisation de ses partisans. Elle espère remporter une victoire symbolique face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a lui immédiatement dénoncé la précipitation médiatique, affirmant que sa rivale ne pourrait pas revendiquer de victoire avant la convention d'investiture de Philadelphie du 25 au 28 juillet. L'adversaire républicain pour la présidentielle du 8 novembre est connu depuis un mois, Donald Trump. L'affrontement entre une femme et un homme d'affaires sans expérience politique serait sans précédent dans l'histoire américaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.